8h19 sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le député de Paris et délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini.
Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Les étés en Macronie sont invariablement marqués par des événements qu'on pourrait qualifier d'embarrassants à tout le moins. Un an après l'affaire Benalla, voici que l'ancien collaborateur de l'Élysée revient dans une interview. Est-ce que ça vous agace ?
Non, c'est vraiment...
C'est un non-événement ?
Commentaire à faire. Oui, bien entendu que c'est un non-événement. Il ne commande pas l'actualité politique. Moi, je suis un dirigeant politique, et donc c'est dans l'ordre du fait divers, mais ça n'est pas en tout cas un événement politique, ça c'est clair.
Alors, l'affaire de cette année, c'est François de Rugy. Votre réaction immédiate, Stanislas Guérini, c'était d'en appeler à la déontologue de l'Assemblée. Vous savez où est-ce qu'on en est ? Est-ce que tout est en ordre ? Est-ce que c'est tranché ?
Non, il y a un audit qui a été lancé, effectivement, pour ne pas avoir à juger cette affaire sur la base d'un article de presse, d'une photo. Mais de faits précis, il y a un audit sur les travaux
qui ont été menés,
pas encore
fini.
Qui est en cours, qui sera fait rapidement. Je crois que évidemment, l'opinion publique attend que la lumière soit faite le plus rapidement possible pour pouvoir juger sur des faits et des principes. Parce que moi, je ne suis pas très à l'aise dans un système politico-médiatique où une photo, un article de presse plein de suspicions. Permettre de clouer au pilori un responsable politique. Je crois que c'est même dangereux.
Ce qu'a dit en substance le président Macron en Sergi.
Je me suis moi-même indigné. J'ai vu des articles qui dénonçaient la situation fiscale de François de Rugy en 2015, alors qu'il n'y avait aucune irrégularité, qu'il faisait tout simplement des dons à son parti.
C'est du bashing.
Comme tous les députés. Je crois qu'il y a parfois une part d'acharnement. Et il faut qu'on soit tous très prudents dans ces situations-là. Je crois que c'est dangereux, y compris pour la démocratie, quand ce sont ces types de suspicions qui sont au fond le tribunal médiatique.
L'issue est proche pour François
Rugy. En étant tout à fait capable de dire qu'il faut être très exigeant sur les faits. Je crois que j'étais effectivement un des premiers à dire qu'il fallait donner de l'objectivité au jugement qu'on peut porter sur cette affaire. Ce sera fait très rapidement et c'est sur la base de ces faits que l'on devra juger cette affaire.
Très rapidement, vous pouvez nous donner un ordre de temps ?
Dans la semaine, c'est ce qui a été indiqué, notamment par le secrétaire général du gouvernement, qui mène un audit pour déterminer si les travaux qui ont été effectués étaient raisonnables ou pas. Et donc, nous pourrons regarder la situation.
En tout cas, ça sera tranché dans un sens ou dans un autre.
Rationnel, mais il faut le faire effectivement rapidement.
Dans cette année, pour La République En Marche, résumons-nous, l'hiver, on a eu les Gilets jaunes, les européennes avec la montée du Rassemblement National, et puis l'affaire Loiseau aussi qui n'a pas aidé, et maintenant les dépenses fastueuses de François de Rugy. Ça va, vous tenez bon à La République En Marche ?
Mais je ne partage pas cette vue-là. L'affaire Loiseau, c'était étonnant comme expression. En réalité,
c'était une affaire.
Voit,
au vu de l'opinion publique,
c'est que nous avons réussi à progresser formidablement en Europe, à établir ce qui était notre objectif, c'est-à-dire un grand groupe au Parlement européen, un groupe central qui pèse déjà sur la vie européenne. Je vais vous donner un exemple très précis. Ce soir, le Parlement votera pour la future présidente
pour
de la Commission européenne. Oui. Nous avons déjà fait bouger les lignes. Jamais d'une
cela
présidente
dit, il y a une incertitude sur elle.
Bien sûr,
mais ça vient
parce
pas de vous.
Que notre groupe a poussé des sujets exigeants. Je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, le fonctionnement en Europe, c'est d'avoir une unanimité quand il s'agit des questions fiscales, qui fait qu'on ne peut pas bouger. Par exemple, on pousse la taxation des GAFA, ça n'est pas possible, alors que 23 pays étaient d'accord pour avancer sur ce sujet-là, parce que certains pays bloquent. Bien, parce que notre groupe existe au Parlement européen, nous avons déjà été en capacité d'influer sur le programme, peut-être de la future présidente de la Commission, fin de l'unanimité en Europe sur les questions fiscales. Pardon, mais ce sont des sujets qui sont majeurs, qui font véritablement bouger les lignes.
Il y a toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide dans une histoire,
Stanislas Guérini. Mais moi, ce qui m'intéresse, partout, toujours, c'est qu'est-ce qu'on réussit à obtenir ? Comment est-ce qu'on fait bouger les lignes ?
Comment
est-ce
qu'on
pousse nos projets ?
Et les échecs, Stanislas Guérini, ça c'est l'histoire de la vie.
Oui, mais c'est désolé d'être peut-être plus optimiste que vous ce matin.
Non, je suis pas du tout optimiste ou pessimiste, je suis observateur.
Ce qui se passe au Parlement européen, c'est une formidable réussite pour les progressistes.
Passons au municipal, si vous le voulez bien. Le grand favori de La République En Marche pour Paris, c'est depuis toujours Benjamin Griveaux. Il y a eu ce long suspense où Cédric Villani, où il s'est réuni, où Mounir Majoubi l'a rejoint, s'était déjà vu en maire. Et puis, crac, on a eu Benjamin Griveaux parce que vous disiez vous-même, Stanislas Guérini, vouloir un maire-manager. C'était plié d'avance.
Non. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que il y a quelques mois, tout le monde disait le procès, c'est déjà vendu, etc. En réalité, il y a eu un match entre
vraiment
deux personnalités ou trois personnalités qui sont présentées devant
avec
la commission.
Avec Hugues Granson, bien sûr.
Avec Hugues Granson, évidemment. Il y avait une dynamique derrière Cédric Villani, c'est vrai. La commission d'investiture a pu juger de deux belles candidatures.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas assez manager, Villani?
Mais je crois que Benjamin Griveaux a davantage convaincu par sa capacité de rassemblement, par la profondeur de son analyse sur son projet, par le fait qu'il était effectivement prêt demain à être le maire de Paris.
Est-ce que vous appelez...
que nous avons un bon candidat,
ouais,
mais nous aurons besoin de toutes les forces.
Donc vous appelez Cédric Villani à ne pas se présenter?
Nous avons cité Cédric Villani. Nous avons besoin, vous avez cité Mounir Majoubi, on pourrait rajouter Anne Le Breton, Antonio Arte, les candidats
à
la candidature.
Vous
nous
demandez
avons
à Cédric
évidemment
Villani
besoin d'eux.
De ne pas se présenter à part.
Mais je souhaite que nous soyons tous rassemblés. Moi, vous savez, je ne suis pas commentateur, je suis à la tête de ce mouvement En Marche. Et évidemment, mon rôle, c'est de rassembler. Parce que je crois que nous avons autre chose à proposer pour Paris. Et donc, Cédric Villani,
vous avez besoin
Hugues
de lui.
Granson, ils apporteront infiniment, nous avons
malgré
infiniment
son amertume, vous avez besoin de lui.
De Cédric Villani dans cette équipe
est-ce
parisienne.
Est-ce que vous le craignez
sa place, parmi les marcheurs.
S'il se positionne.
Il sera parmi les marcheurs. Je ne le crains pas. Je crois que nous serons rassemblés. Il a dit qu'il prendrait
sa décision
le temps,
en septembre.
De l'été pour d'abord se reposer. Je pense que si on se dit les choses franchement, il y a eu une compétition devant la Commission nationale de l'investiture.
Oui.
Il y a certainement eu une déception. Tout ça est humain. Et je crois que Cédric Villani, c'est quelqu'un qui est passionné, qui aime la compétition aussi. Bien, on peut quand même se donner quelques jours pour effectivement parler avec celles et ceux qui l'ont soutenu, prendre ce temps-là. Mais j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on sera rassemblés parce qu'on a des belles choses à proposer aux Parisiens.
Les
c'est ça qui est intéressant maintenant. Il faut se tourner vers les Parisiennes et les Parisiens. C'est la seule
les
chose qui m'obsède
c'est aussi
aujourd'hui.
En région, Stanislas Guérini, pardon de vous couper, mais le temps file. 15 nouveaux candidats, on ne va pas tous les citer. Nommons par exemple Carole Gandon qui part à la conquête de Rennes, Émilie Chalas à Grenoble. Comment est-ce qu'on fait le casting? Est-ce que c'est toujours la société civile parce que ce sont... des gens comme tout le monde, c'est toujours la même recette de La République En Marche?
Bah, vous venez de citer deux belles personnalités, je le dis au passage, deux femmes, dans deux des plus grandes, 20 plus grandes villes de France. Je trouve que c'est intéressant aussi. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a que 16% de maires femmes. Mais rassurez-vous, elles n'ont pas été désignées seulement parce que ce sont des femmes.
Ce n'est pas de
elles
la discrimination positive.
Parce que ce sont des personnalités fortes, talentueuse. Carole Gandon est une personnalité qui vient de la société civile. Elle est notre porte-parole aujourd'hui. Elle va porter un projet, et elle travaille depuis des mois, à porter un projet innovant pour Rennes. Émilie Chalas est une députée reconnue, qui était la rapporteure du projet de loi sur la fonction publique, qui a été reconnue dans son
justement capacité. Je veux bien entendre les superlatifs, mais je vous pose une question de fond.
C'était les plus à même à porter un projet progressiste pour ces deux villes-là. Moi, c'est ma seule boussole.
La boussole, c'est que vous devez reconquérir les territoires. Il y a eu une cassure avec les territoires, on l'a vu avec Emmanuel Macron et les maires. Ça a été plus ou moins réglé, je mets beaucoup de stabilo-boss sur plus ou moins. Comment est-ce que vous allez reconquérir les territoires alors que vous répétez la même chose, vous refaites la même recette?
Mais d'abord, dire que nous avons infiniment besoin d'élus locaux sur le terrain. Aujourd'hui, La République En Marche à environ 2000 élus locaux en marche. Et nous avons besoin, j'ai fixé cet objectif-là, de multiplier par 5. C'est l'objectif que j'ai donné, d'avoir demain plus de 10 000 élus locaux sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous réussirons à véritablement transformer le quotidien, la vie des Français.
Avec le MoDem aussi?
Avec le MoDem, bien entendu. Et j'ai toujours fixé
même
cet objectif-là.
Même à Bordeaux, où il y a des...
vous
comment
savez,
dirais-je,
je crois
la compétition.
Les cas où nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, ce seront des cas qui seront largement minoritaires. Et en réalité, avec le MoDem, on travaille très
et
bien.
Tant pis.
Ce sont des alliés. Et tant pis, parce que c'est ça les élections municipales. Parfois, il y a des historiques locaux qui font que parce que tel ou tel est dans l'exécutif et que nous souhaitons porter autre chose, mais on fait les choses différemment. Ça n'est pas un drame. Mais en revanche, je continue de travailler avec nos partenaires et nos alliés du MoDem pour que le plus majoritairement possible, les forces progressistes partent rassemblées.
Merci beaucoup, Stanislas Guérini, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin.